15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il sera à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, hein, vous êtes médecin urgentiste et en fait, quand vous n'êtes pas sur ce plateau, vous êtes au domicile des patients, vous allez chez eux avec votre petite mallette pour soigner petits et gros bobos. En tout cas, chez nous, ici, du lundi au vendredi, c'est la santé des auditeurs d'Europe 1 que vous allez, que nous allons chouchouter. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à notre organe quasi le plus important, le cœur. S'il montre des signes de faiblesse, tout le reste du corps déraille. Donc avec notre invité, le professeur Claire Mounier-Veillé, présidente honoraire de la Fédération française de cardiologie, nous ferons le point sur tous les moyens pour garder notre cœur en forme, au top dès le plus jeune âge. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera chaque jour un bon conseil. Aujourd'hui, il nous dira tout ce qu'il faut faire quand on a une angine. D'ailleurs, pourquoi y en a-t-il autant en été ? Comment les soigner ? Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler des bébêtes que je déteste, les poux. À cette époque de l'année, je suis sûre que ça va intéresser pas mal de parents. On vous donnera toutes les astuces qui fonctionnent pour les chasser de la tête des enfants avant la rentrée. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Il sera question aujourd'hui d'infidélité en compagnie de notre sexologue Catherine Blanc, qui elle aussi sera là tous les jours dans son rendez-vous. Nous verrons pourquoi certains trompent leur conjoint. Est-ce que cela résulte forcément d'une forme de lassitude sexuelle dans le couple ? Elle nous dira tout. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Alors tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Françoise. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Françoise. Je vous téléphone pour vous dire que j'entends partout dire qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. D'où sort-il ce chiffre ? Est-ce bien exact ? Et pourriez-vous me donner le renseignement ? Je vous remercie.
Alors, docteur Jimmy Mohamed, d'abord, il faut rappeler quand même que quand on parle en fait de 5 fruits et légumes, en fait, on ne parle pas forcément de 3 pommes entières, 2 poireaux entiers. En fait, c'est quoi ? C'est 5 portions ?
Oui, exactement. 5 fruits et légumes, c'est 5 portions d'environ 80-100 grammes. Et ce n'est pas forcément que des fruits et des légumes. Un bol de soupe, ça marche. Une compote, ça marche. Une poignée d'haricots verts, même chose. Et ça correspond aussi à une poire, 4-5 fraises ou 2 pruneaux. Donc on n'est pas obligé simplement de compter ces fruits et légumes tous les jours.
Alors pour qu'on comprenne bien, pourquoi ils sont si indispensables finalement ces fruits et légumes ? Concrètement, ils apportent quoi ? Ils nous apportent quoi à notre organisme en
Alors fait ? Ils apportent tous les nutriments indispensables à notre santé. Ça permet d'avoir une alimentation équilibrée et variée, parfois même de perdre un petit peu de poids. Et puis cerise sur le gâteau, ils sont riches en antioxydants. Ces antioxydants qui permettent de protéger notamment le cœur, d'éviter les maladies cardiovasculaires et qui auraient un rôle bénéfique dans la prévention de certains cancers. Donc ce n'est pas un lobby des marchands de fruits et légumes, c'est un vrai intérêt, un vrai impact thérapeutique que de manger des fruits et légumes tous les jours.
Alors si on passe au concret vraiment, du coup sur une journée, qu'est-ce que vous nous conseillez ? On fait comment pour faire ces 5 ou au moins tendre vers ces 5 fruits et légumes ?
Alors c'est vrai que quand on dit 5 fruits et légumes, ça paraît énorme. Alors il faudrait essayer d'aller de tendre vers ça et déjà éviter les préparations industrielles. C'est le premier des conseils, ça coûte cher, c'est salé. C'est bourré parfois d'additifs.
Donc des vrais légumes qu'on achète au marché.
Des vrais légumes qu'on achète au marché. Et donc c'est tout simple, au petit déjeuner vous prenez un fruit, vous prenez une poignée d'haricots verts avec un steak bien grillé à midi, une petite collation avec une poignée de fruits secs, et le soir vous pouvez manger une soupe et ça y est, le compte y est.
Et moi si en dessert je préfère un petit yaourt aux fruits par exemple, est-ce que ça compte ça ?
Alors ça compte pas, comme les jus de fruits. Ah. Les jus de fruits ça compte pas et les yaourts non plus parce qu'ils contiennent très peu de fruits et sont très sucrés. Donc mieux vaut une compote maison qu'un yaourt.
Alors on va passer à la deuxième question, merci beaucoup Jimmy. Cette fois on écoute Thomas qui nous a posé sa question au 3921.
Bonjour, je vous appelle parce que je fais du footing et je prends toujours des boissons énergisantes avec moi. Je voulais savoir si c'était une bonne chose et si c'était vraiment efficace. Merci.
Alors d'abord je crois qu'il faut quand même préciser une chose qui est assez importante. Dans sa question, il parle de boissons énergisantes, mais est-ce qu'il ne confond pas peut-être avec plutôt les boissons énergétiques qui ont en fait rien à voir, non docteur
Exactement, les boissons énergisantes, c'est les boissons sucrées qui comprennent de la caféine, de la taurine et qui ne sont absolument pas énergisantes. Le mot est un peu vendeur et promet de choses extraordinaires. Or, c'est juste des boissons sucrées qui ne sont adaptées ni avant, ni pendant, ni après le sport.
C'est même dangereux peut-être.
Et ça peut même être dangereux parce qu'il y a un risque de déshydratation, de tachycardie, il y a trop de caféine, on peut faire des malaises. Donc elles ne sont absolument pas conseillées et ni recommandées. Même en dehors du sport, je vous le déconseille très fortement.
Mais on dit quand même qu'elles sont très sucrées, je ne comprends pas bien. Ça peut peut-être au moins à récupérer une fois qu'on a fait, je ne sais pas, une heure de footing, on est crevé, on a perdu du sucre, on a besoin d'énergie. Même là, on ne les utilise pas ?
Non, surtout pas. Il y a un risque d'hypoglycémie réactionnelle et donc vous pouvez faire un malaise au décours. Donc on les bannit et si on veut prendre quelque chose, c'est plutôt des boissons énergétiques et pas énergisantes.
Et alors du coup, pour répondre quand même à la question de cet auditeur, les boissons énergétiques pour le sport, on en pense quoi ? Celles qui sont vraiment énergétiques, hein,
alors,
pas énergisantes.
Elles sont vraiment recommandées pour ceux qui ont une activité physique assez importante. Alors pas pour le yoga que vous pouvez faire, Mélanie, mais pour la vraie activité physique. Qui
c'est
permet...
intense le yoga, pourquoi vous dites ça ?
Oui, c'est intense, mais pas autant qu'un vrai footing ou quelque chose...
Ah oui, un vrai sport.
Un
quoi.
Vrai sport, on va dire. Non, mais je plaisante. Elles contiennent suffisamment de glucides et de nutriments pour récupérer après un effort. Donc elles sont recommandées, mais pour de vrais efforts intenses, parce qu'elles restent sucrées malgré tout. Donc si vous en prenez à longueur de journée, dès que vous montez 3 marches, eh ben forcément, vous allez prendre du poids.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Thomas, qu'on vient d'entendre, hein, vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons, pourquoi pas dès demain, avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed justement va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des angines. Comment savoir qu'on en a une ? Angine rouge, angine blanche, c'est quoi la différence ? Et bien sûr, comment les soigner ? Et puis on accueillera aussi notre invité du jour, la cardiologue Claire Mounier-Veillé, qui va nous expliquer comment prendre soin de notre cœur. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et avant de retrouver dans quelques minutes la cardiologue Claire Mounier-Veillé qui va nous dire comment garder notre cœur en forme, c'est le moment justement du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, aujourd'hui vous allez nous parler donc des angines, mais on est en été. Moi c'est vrai que je pensais que les angines en fait c'était plutôt en hiver. Vous en voyez vraiment beaucoup en ce moment en consultation des angines ?
Eh oui, j'en vois même plus qu'au mois de décembre. Et ça c'est lié aux circuits de climatisation qui sont parfois un peu trop forts ou un peu sales. Et donc dès lors qu'on prend la climatisation en pleine tête, ça irrite les voies respiratoires et on tombe plus facilement malade. Notamment lorsqu'on revient d'un voyage en avion, on peut attraper une angine. Et donc c'est la saison des angines.
Ah ben c'est dingue ça, effectivement. Moi je pensais que c'était vraiment pendant la grippe en même temps que pendant l'hiver. Alors c'est quoi concrètement en fait une angine ? Parce que finalement, on peut avoir un matin mal à la gorge. Comment on fait la différence entre j'ai une angine ou j'ai un petit mal de gorge qui va passer tout seul ?
Alors ce qui peut aider les gens, c'est que si vous avez mal lorsque vous avalez, vous mangez un aliment, c'est peut-être qu'une simple pharyngite, c'est-à-dire l'infection du pharynx, c'est juste la paroi sur laquelle reposent les amygdales. En revanche, si vous avez mal lorsque vous avalez votre salive, et là c'est peut-être les amygdales qui sont infectées, vous avez peut-être une angine, et là c'est le moment de consulter.
Alors quand on parle, moi j'avais entendu parler des angines blanches, des angines rouges, c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors c'est juste une forme d'angine différente, comme vous avez des voitures rouges, des voitures bleues, ça reste des voitures, et donc ça reste des angines.
L'angine bleue ça n'existe pas par contre.
Non, ça n'existe pas, en tout cas pas encore. La seule chose c'est que pour le patient ça n'a aucun impact. Or, le patient, lorsqu'il a une angine blanche, il est persuadé...
On a l'impression que c'est plus grave. Ouais,
oui, c'est
ça.
Plus grave, docteur. J'ai une angine blanche. Une angine qu'on appelle érythémato-pultacée. Mais peu importe.
Oh là là, c'est compliqué.
Mais oui, c'est un nom barbare. Un peu...
Angine blanche, quoi.
Angine blanche, ça marche très bien. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. On s'en fiche, blanche ou rouge, c'est juste une couleur.
Mais est-ce que si c'est blanc, ça veut dire qu'il y a du pus, que c'est infecté, en fait, ou pas ?
Et non, et ça, c'est souvent trompeur. Et les patients veulent des antibiotiques.
Oui.
Or, 90% des angines de l'adulte sont virales, donc ne nécessitent pas d'antibiotiques. Et même une méga angine blanche, eh ben, ça peut être virale. Ou au contraire, une toute petite angine rouge. Peut-être bactérienne.
Et on fait comment cette différence entre viral et bactérien ? Alors, parce que le patient, ça a l'intérêt qu'il fasse la différence, d'ailleurs.
Lui, non. Et d'ailleurs, c'est même difficile pour le médecin de faire la différence. Et la seule façon de la faire, c'est de faire un test de gorge avec un petit écouvillon. Il permet de voir, détecter le streptocoque. Test positif, on prend des antibiotiques. Test négatif, on n'en prend pas. Et ce test est disponible désormais en pharmacie.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par contre ? Qu'est-ce qu'on pense ? Parce que les anti-inflammatoires, par exemple, quand on dit on a mal, c'est inflammé. Est-ce qu'il y a besoin d'anti-inflammatoires au moment d'une angine ?
Eh ben, c'est le piège. Souvent, les patients prennent des anti-inflammatoires lorsqu'ils ont mal à la gorge et c'est strictement contre-indiqué. Le risque, c'est d'évoluer une angine banale vers un phlegmon de gorge. Donc si vous avez mal, prenez du paracétamol, du thé, du miel, du citron et consultez si dans les 48 heures, ça ne passe pas.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. On va parler de notre cœur aujourd'hui, comment le chouchouter, le garder en pleine forme le plus longtemps possible.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Claire Mounier-Veillé.
Bonjour.
Alors vous êtes présidente honoraire de la Fédération Française de Cardiologie. Donc avec vous, on a dit depuis tout à l'heure, on va parler du cœur. On va justement commencer par les basiques quand même, hein, finalement. Rappelez-nous à quoi il sert ce cœur. On sait qu'on en a grandement besoin, hein, qu'il est essentiel, mais c'est quoi sa fonction concrètement?
Alors déjà, le cœur, c'est un muscle. Ça, il faut bien que les auditeurs le comprennent. Un muscle, donc une pompe, comme une chaudière, qui va envoyer 5 litres de sang à chaque battement cardiaque et qui va irriguer tous les organes vitaux de notre organisme, le cerveau, les foies, les reins, tous les organes qui sont absolument vitaux pour vivre.
Quand la chaudière ne marche plus, plus rien ne marche. En fait, tout déraille, du coup.
Alors,
c'est ça.
Quand la chaudière ne marche plus du tout, c'est l'arrêt cardiaque, donc ça on le souhaite à personne. Après, elle peut marcher au ralenti, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, où ce cœur a du mal à se contracter pour alimenter correctement les organes, le rein marche moins bien, et du coup, on se trouve face à un lave-linge qui essore en mode laine au lieu d'essorer en mode coton. C'est ce que j'explique à mes patients.
Et ce cœur, il est très sensible à ce qui se passe à l'extérieur de nous, enfin à notre environnement, à certains polluants peut-être?
Alors le cœur, c'est effectivement les maladies du cœur, on dit que c'est les maladies de l'environnement, c'est très sensible à la pollution atmosphérique, au tabac, au cholestérol, au diabète, au stress aussi, on a tendance à l'oublier, à la précarité sociale. Donc voilà, notre cœur, il faut le chouchouter parce qu'il est extrêmement sensible à tout l'environnement psychosocial.
Et il est sensible également à l'alimentation peut-être?
Oui, alors l'alimentation, il y a l'alcool. L'alcool est très toxique pour le muscle cardiaque et entraîne vraiment des insuffisances cardiaques qui peuvent être réversibles. Il y a également tout ce qui est sel. Manger trop salé, c'est pas bon pour le cœur qui a du mal à pulser. Il y a également tout ce qui est trop de cholestérol, les mauvaises graisses. Vous parliez tout à l'heure des boissons énergisantes. Effectivement, tout ça, c'est toxique pour notre cœur.
Et alors, à quelle partie de quand il faut commencer à en prendre soin de ce cœur finalement? Est-ce que, vers la trentaine? Est-ce que ça commence peut-être même dès l'enfance? Je sais pas.
Ça commence dès la conception, je dirais. Un cœur de fœtus doit être protégé. Une maman qui fume ou qui boit de l'alcool, c'est toxique pour le cœur du bébé. Si c'est un petit bébé qui naît avec un petit cœur et des petits reins, eh bien ça sera un adulte plus à risque à la maturité vers 45-50 ans.
Donc on en prend soin dès la grossesse.
Dès la grossesse, c'est-à-dire que nous, les mamans enceintes, on a un rôle fondamental à jouer pour la prévention cardiovasculaire de nos bébés.
Une maman qui fume, on peut sans culpabiliser personne, bien sûr, on sait qu'il y en a certaines pour qui c'est très difficile d'arrêter, mais clairement, il y a un effet nocif, c'est prouvé sur le fœtus.
Une maman qui fume, le placenta, qui est une grosse éponge vasculaire, va être abîmée par ce tabac. Le bébé va également respirer la nicotine et les toxiques de la cigarette. Donc effectivement, il faut inciter les mamans et on peut donner des patchs à la nicotine aux femmes enceintes, et ça les femmes enceintes ne le savent pas toujours.
C'est pas dangereux pour les femmes enceintes?
Non,
de
pas du tout. On peut parfaitement patcher une femme pour justement l'aider à arrêter de fumer, c'est très important.
Et ça fonctionne à cette époque-là? Vous arrivez à en faire arrêter certaines pour leur propre cœur à elles et puis pour le cœur de leur bébé?
Ça dépend un petit peu du milieu social, c'est-à-dire que les femmes extrêmement précaires avec de grosses difficultés qui sont des grossesses monoparentales, c'est un petit peu plus compliqué, mais là on essaye d'agir avec les psychologues.
Merci beaucoup Claire Mounier-Veillé, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons continuer à parler de notre cœur, mais surtout de prévention. Hein, finalement, quelles sont les grandes règles à respecter pour garder ce muscle, cette chaudière de notre organisme au top, comme vous l'avez dit. Mais d'abord, un peu de musique, on écoute le titre « Je suis un homme » de Zazie.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble ce lundi jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed et aujourd'hui le professeur Claire Mounier-Veillé. Vous êtes présidente honoraire de la Fédération Française de Cardio. Alors vous nous avez expliqué tout à l'heure que finalement prendre soin de son cœur, ça peut commencer dès la vie fœtale, donc dans le ventre de la maman, une grosse responsabilité pour elle, mais dès l'enfance. Alors on va dire une fois qu'il est né ce petit enfant, comment on prend soin du cœur de son petit finalement? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parent?
Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est déjà l'inciter à bouger, parce que nos enfants ont tendance à rester sur le canapé. Quand on voit qu'il y a des gamins de 1 an qui jouent déjà avec les smartphones de leurs parents, c'est leur donner des mauvais réflexes. Nos gamins regardent en moyenne entre 5 et 6 heures d'écran par jour, ce qui est beaucoup trop. Ça veut dire que ce sont aussi des enfants sédentaires et stressés.
Donc, parce que parents, vous, c'est la sédentarité qui vous pose problème, justement, dans ces histoires d'écran.
C'est la sédentarité, c'est aussi le stress généré par les écrans, c'est les troubles du sommeil générés par les écrans, c'est aussi le grignotage, parce que quand on regarde un écran, quand on mange le soir en famille devant la télé, on a tendance à plus manger. C'est des envies de sucrer avec les écrans.
On ne peut pas leur enlever complètement les écrans, mais par contre,
non,
il faut
mais on peut leur restreindre à 2 heures, et puis à un âge à partir duquel on dit, là on peut commencer, c'est à partir de 4-5 ans, on dit là on peut leur autoriser des temps d'écran, mais sans être dans la privation, parce que là, on va générer la désobéissance, on va dire.
Docteur Jimmy Mohamed.
Oui, et petit à petit, ce temps, cet âge à partir duquel on peut exposer les enfants aux tablettes, va reculer de plus en plus. Et vous allez voir que d'ici quelques temps, on ne dira pas avant 6 ans. Et d'ailleurs, on sait que les enfants, actuellement, pour courir 400 mètres, mettent 25% de temps en plus que dans les années 80. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est simplement lié aux tablettes? Et donc, peut-être être un peu plus drastique et dire zéro tablette, zéro écran? Ou est-ce qu'on peut être un peu souple?
Il faut être souple, parce qu'en étant rigide, on n'arrivera à rien. Par contre, nos enfants, il faut les inciter à bouger. Tiens, je ne vais pas à l'école en voiture si je peux marcher pour aller à l'école. Quand vous voyez dans la rue des enfants qui ont 5 ans avec le doudou, la tutute, dans la poussette pendant les courses du samedi après-midi, on se dit, on dérape.
Et là, on fait du mal à leur cœur, en fait.
On fait du mal à leur cœur, il faut leur donner l'envie de bouger. C'est aussi en cours de récréation, c'est leur réapprendre les jeux qu'on avait quand on était petit. La marelle, le mouchoir, le ballon. On avait des jeux à l'école de groupe. Mais là, tu vois les cours de récréation. Vous voyez les cours de récréation. Les gamins, ils sont tous avec leur tablette ou leur smartphone. Ils ont des jeux.
Alors, pas en maternelle quand même, ni en primaire encore.
Non, pas en maternelle.
Au collège,
je parlais du collège, par exemple. Mmh. Les cours de récréation du collège, il faut agir dessus.
Est-ce que ça peut avoir un impact sur le long terme? Parce que la question, elle est là. Parce que bon, ok, nos enfants bougent moins, mais est-ce que plus tard, ils vont avoir un cœur plus faible, développer de l'insuffisance cardiaque pour rien? Est-ce que il y a un réel impact sur la santé?
Alors, effectivement, nos enfants ont dit qu'ils ont une moins bonne capacité cardiovasculaire à l'effort, enfin ceux qui ne bougent pas beaucoup. Il y a quand même des enfants sportifs. Il ne faut pas dire que tous les enfants français sont sédentaires, heureusement. Mais c'est vrai qu'ils se déconditionnent à l'effort. Mais ce n'est pas perdu pour toujours. C'est-à-dire qu'on peut reprendre avec un réentraînement, on peut récupérer des capacités cardiovasculaires à l'effort. Mais c'est vrai que la Fédération française de cardiologie a lancé un message d'alerte il y a 2-3 ans sur la santé cardiovasculaire des enfants. On a fait un film qui s'appelle Les Chutes. On incite vraiment les parents, et c'est nous, parents, qui avons un rôle pour redonner l'envie à nos enfants de bouger et les inciter à bouger et à ne pas rester derrière un écran, comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas que l'activité physique.
À cet âge-là, c'est bouger, mais c'est quoi d'autre alors pour les enfants? Parce qu'après, on va parler des adultes, évidemment.
C'est également bien manger, c'est inciter les enfants, c'est de façon ludique, on leur réapprend
à
cuisiner.
On évite le surpoids, du coup.
Donc les enfants, effectivement, on a 25% d'enfants obèses, tout âge confondu, ce qui est énorme. Je vois maintenant dans ma patientèle des enfants hypertendus à 14-15 ans que je n'avais pas il y a 25 ans.
Ah oui, des enfants hypertendus avec de l'hypertension artérielle dès l'adolescence.
C'est l'obésité, parce que c'est les enfants qui mangent trop sucré, trop salé, trop riche, qui ne bougent pas et qui du coup sont en surpoids. S'ils sont en surpoids, ils n'ont pas envie de bouger. Et l'adolescence est une autre phase critique, parce que les jeunes filles ont du mal à montrer leur corps qui change et du coup, elles vont se replier un petit peu sur elles-mêmes.
Docteur Jimmy Mohamed.
Là, on arrive à la rentrée, c'est la période des certificats d'aptitude au sport, notamment pour les enfants. Et souvent, les parents considèrent que c'est un examen inutile et que bon, c'est une formalité, faites-moi le certificat. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, si ce n'est de protéger un peu tout le monde? Est-ce qu'on peut vraiment déceler des choses lorsqu'on va chez le médecin pour un certificat du sport pour notre enfant?
Déjà, le certificat du sport permet de mesurer la pression artérielle chez l'enfant qui n'est quasiment jamais faite. Et donc, on a des hypertensions de l'enfant. Ça permet également de mesurer le poids, la taille, de voir s'il n'y a pas un infléchissement de la courbe pondérale et staturale. Et ça permet, en auscultant le gamin, l'enfant peut avoir un souffle, on peut avoir quelque chose qu'on n'avait pas perçu avant. Oui.
Alors, on va passer quand même aux adultes un petit peu. Je crois qu'il y a 7 règles d'hygiène qui ont été fixées récemment par les cardiologues pour bien prendre soin de son cœur. Bon, alors 7, ça fait un peu peur, ça fait beaucoup quand même de règles. Mais quelles sont ces règles, au moins quelques-unes, et est-ce qu'il faut vraiment toutes les appliquer?
Alors, il y a des règles comportementales, c'est-à-dire le bien manger, 5 fruits et légumes dont on parlait tout à l'heure, c'est la cigarette, c'est le fait de bouger, c'est l'index de masse corporelle, c'est la glycémie à jeun, le cholestérol total et la mesure de pression artérielle.
Qu'est-ce que je fais moi avec ces règles-là? Je vais me prendre après.
Oui. Il y a effectivement un score qui a été créé par des Américains à la base. C'est en fait de la prévention primordiale, c'est-à-dire agir avant l'apparition du premier facteur de risque. Et on sait aujourd'hui, avec une étude notamment qui est sortie dans Le Monde il y a peu de temps, au mois d'août, que même si on pratique 3 règles sur 7, c'est déjà efficace.
Alors lesquelles je prends? Lesquelles vous appliquez-vous par exemple?
Alors lesquelles je n'appliquerai pas plutôt. Celles que je n'appliquerai pas, je ne fais pas assez d'activité physique. Mais le reste, je ne fume pas, je mange mes 5 fruits et légumes, voire même plus. J'ai un bilan lipidique parfait.
Pas de cholestérol.
Parfaite, voilà. Par contre, effectivement, je dirais l'activité physique, c'est là où il faudrait un peu plus agir.
Et pour les patients qui nous écoutent...
Alors pour les patients, il faut dire que d'abord, la prévention marche à tout âge. C'est-à-dire que plus elle est mise en place tôt, mieux c'est pour la personne. Mais même quand on a fait un accident cardiaque, avoir des mesures de prévention, ça permet de prévenir la récidive dans 1 cas sur 2 d'un nouvel accident. Donc il n'y a pas d'âge pour une prévention efficace, ça c'est très important. Et puis on peut faire que 3 mesures sur 7, 4 mesures, 5 mesures, ou bien se mettre aussi des petites étapes. Une mesure tous les 2 mois par exemple. Et finalement, c'est un peu de la prévention positive, plutôt que de communiquer « si tu fumes, tu vas mourir », c'est « finalement, je vais mettre en place des mesures de prévention positive ». qui vont me permettre d'aller plus loin. Voilà.
Merci beaucoup Claire Mounier-Veillé. Ne bougez pas, on n'en a pas terminé avec vous. Dans un instant, on va parler du cœur des hommes aussi, hein, parce que là, on a quand même parlé des jeunes, des enfants, on a parlé des hommes et des femmes en général, de celui des seniors aussi. On va voir qu'il n'est jamais trop tard pour faire du bien à son cœur et vous verrez qu'il y a des astuces simples comme adopter un animal qui peuvent vraiment rebooster votre santé cardiovasculaire. Restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Claire Mounier-Veillé, présidente honoraire de la Fédération française de cardiologie. Alors j'ai dit il y a quelques minutes, on va parler du cœur des femmes par exemple. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que du point de vue du tabac, alors fumer c'est mal, ça on le sait, mais du côté des femmes, c'est vraiment en ce moment la pire des situations, on est d'accord ?
À la première cause d'infarctus du myocarde de la femme, c'est le tabac. 8 infarctus sur 10 avant 50 ans. Donc ça vous laisse rêver.
Elle fume plus que les hommes aujourd'hui.
Elle fume plus que les hommes, elle fume tôt. Hein, l'âge de la première cigarette, c'est 13 ans chez la jeune fille qu'elle prend à la maison, la première cigarette. Et il y a aussi le cocktail, le terrible cocktail tabac avec la contraception qui contient un oestrogène de synthèse. Donc là, les deux, ça multiplie par 30 le risque d'infarctus.
Pour qu'on comprenne bien, le tabac, ça fait quoi concrètement dans nos vaisseaux, dans nos artères, quand on fume une cigarette, ne serait-ce qu'une, il se passe quoi ?
C'est bien de dire une cigarette, parce qu'il n'y a pas de petite cigarette pour la toxicité de la cigarette. Parce que la cigarette, ça va entraîner l'artère qui va se refermer sur elle-même, ce qu'on appelle un spasme, comme un élastique. Et en même temps, ça active la coagulation. Donc même sans avoir de plaque de cholestérol dans la lumière de l'artère, ne serait-ce que d'avoir un spasme et activer la coagulation, ça peut provoquer un infarctus du myocarde. Et ce n'est pas des 3 cigarettes par jour, ça multiplie par presque 20 le risque d'infarctus du myocarde. Donc 3 cigarettes par jour, ce n'est pas grand-chose.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et d'ailleurs, on parle du cœur des femmes. C'est un sujet que vous portez à la Fédération de cardiologie. Et longtemps, la cardiologie, finalement même la médecine, ne s'est intéressée qu'aux hommes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des spécificités entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez donner quelques différences concrètes, notamment lorsqu'on parle de douleur à la poitrine, d'infarctus ? Est-ce qu'une douleur chez une femme, c'est la même chose que chez un homme ?
Alors déjà, la douleur dans la poitrine comme thoracique qui comprime le cœur, elle existe quand même dans 1 cas sur 2. Ça traduit une artère qui se bouge brutalement. Maintenant, effectivement, on a appris la médecine avec des symptômes sur des études cliniques d'hommes. Et donc les femmes, elles ont plutôt des symptômes digestifs, nausées, vomissements, fatigabilité à l'effort, essoufflement à l'effort, douleur entre les deux omoplates.
Quand elles ont ça, il faut qu'elles pensent à un infarctus, les femmes.
Alors, ce n'est pas toutes les femmes, sinon on va affoler les auditrices. Hein. C'est des femmes qui sont exposées aux facteurs de risque. Donc la femme fumeuse, la femme hypertendue, la femme qui a du cholestérol, la femme qui est ménopausée depuis plus de 5 ans. Effectivement, ces femmes-là, si elles ont des symptômes qui augmentent en fréquence et qui se rallongent, effectivement, là, il faut penser à « c'est peut-être mon cœur ».
Parce qu'il y a vraiment des périodes d'ailleurs pour les femmes. Après, on va passer quand même aux hommes, mais on en termine avec les femmes. La grossesse, la ménopause, là, c'est des périodes critiques pour le cœur des femmes.
Hein. Alors, on peut effectivement, c'est des causes rares d'infarctus, mais on en voit pas mal, des femmes qui peuvent faire un infarctus après l'accouchement. Là, c'est l'artère qui fait la poupérus, qui se déchire, ce qu'on appelle la dissection coronaire. Mais les femmes, il ne faut pas qu'elles... Il ne faut pas qu'elle se dise, c'est rien. C'est soit une embolie pulmonaire, soit une dissection.
Quand même, heureusement,
c'est rarissime, mais ça peut arriver. Donc, il faut savoir que ça existe. Et après, vraiment, le gros pic d'infarctus, c'est au moment de la périménopause.
C'est quand ça ?
Alors, ça commence au moment où les règles cafouillent, les cycles se raccourcissent, se rallongent. On prend du poids, le cholestérol, le mauvais cholestérol augmente, la glycémie augmente. Et effectivement, c'est une période un peu plus à risque. Et après, ce sont les 5 ans qui suivent l'arrêt des règles.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va revenir quand même sur les hommes et les femmes en général. Comment on sait aujourd'hui si son cœur il commence à un peu affaiblir, on va dire ? Je crois qu'à la Fédération française de cardiologie, vous avez un test tout simple qui est sur le site de la Fédération. En quelques minutes,
c'est « Je teste mon cœur », on va sur le site fedecardio.org. On a tout de suite la petite fenêtre et ce test, on le fait en 3-4 minutes. On est obligé de remplir toutes les cases, sinon on ne peut pas aller à la page suivante. Et effectivement, ça vous balaye l'exposition aux facteurs de risque classiques, comment vous vivez, si vous êtes stressé, si vous dormez bien.
Ça me dit quoi à la fin, attention, tu vas faire un infarctus demain.
Et à la fin, consulter le risque est élevé, consulter un cardiologue ou bien vous êtes tranquille ou bien faites attention. Et puis on répète les conseils d'hygiène de vie. Voilà.
Et si on ne fait pas le test, à partir de quel âge il faut aller voir le cardiologue ? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut absolument y aller ? Ou si on est en bonne santé, qu'on ne fume pas, qu'on ne boit pas, on peut ne jamais y aller ? Ou à 30 ans, 40 ans ? Est-ce que ça vaut le coup ?
Alors on a des recommandations sur le sujet. On dit les hommes, à partir de 45-50 ans, on leur recommande de faire un électrocardiogramme et une épreuve d'effort. Je ne parle pas des sujets sportifs, je ne suis pas cardiologue du sport, mais effectivement, Ça, c'est une situation à part. Et chez les femmes, maintenant, on est en train de revoir nos recommandations, puisqu'on a dit que ces femmes étaient exposées de plus en plus tôt à une hygiène de vie défavorable. Avant, on leur disait pas avant 55-60 ans. Maintenant, on aurait tendance à dire un peu comme les hommes. D'ailleurs, on est en train de travailler avec le ministère de la Santé sur la consultation de la femme de 50 ans de dépistage. Bien, à 50 ans, une femme qui est exposée aux facteurs de risque ou qui veut reprendre une activité physique alors qu'elle était sédentaire, on lui recommande de faire un examen clinique, un électrocardiogramme et puis faire un test d'effort.
Donc 50 ans.
C'est de la prévention. 50 ans.
Voilà. 50 ans chez la femme.
Et chez l'homme, du coup, on attend un peu plus.
Chez l'homme, c'est 45-50 ans, c'est à peu près. Oui, mais on est en train de rajeunir un peu les choses, en tout cas pour la femme, parce que l'environnement, faut, je le répète, c'est dans 80% des cas, le premier accident cardiovasculaire survient parce qu'on est exposé aux facteurs de risque. Donc voilà. L'hérédité, c'est tout petit, en fait.
Et quand on est âgé, voire très âgé, hein, là je parle des gens qui ont peut-être 80, 90 ans, est-ce qu'à ce moment-là, alors on est parfois déjà, on a un peu d'hypertension artérielle, on peut être un peu diabétique, on a quelques, on prend déjà peut-être quelques médicaments, est-ce que là déjà c'est trop tard, en fait, ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire à cet âge-là, quand on est très âgé, pour faire du bien à son cœur, je ne sais pas, le régénérer, est-ce que c'est possible?
Ah ben, pour faire du bien à son cœur, donc on a aussi une structure d'accueil pour les patients âgés à la Fédération française qui s'appelle le Club Cœur et Santé. Donc on en a 250 en France, on les développe chaque année un peu plus. Et là, c'est faire de l'activité physique en groupe, où on resocialise ces gens qui sont parfois tout seuls parce que les enfants habitent très loin.
Et vous adressez à ceux qui ont 80, 90, on peut venir à n'importe quel âge.
Il n'y a pas d'âge pour la prévention. Comme on peut changer une valve aortique par TAVI, c'est-à-dire qu'on met une prothèse par voie endovasculaire, chez des gens qui ont parfois 94, 95 ans.
Sans ouvrir le cœur.
Donc il n'y a pas d'âge, ça va dépendre plutôt de ce qu'on appelle, nous, l'âge physiologique, plutôt que l'âge réel. Vous avez des gens de 90 ans qui font 10 de moins aujourd'hui. Et à l'inverse, vous avez des gens de 50 ans qui en font 60. Donc voilà, nous, on se base surtout sur l'âge physiologique et est-ce que la personne est vigoureuse, donc très indépendante, promène son chien, on en verra tout à l'heure, ou bien est-ce qu'elle est dépendante ou est-ce qu'elle est vraiment en fragilité.
Donc il n'est jamais trop tard pour prendre soin de son cœur.
Bien sûr.
Jimmy Mohamed.
Et vous parliez des animaux. Moi, je me rends compte en visite, notamment, que les gens sont très attachés à leurs chiens, à leurs chats. Et j'ai vu une campagne, apparemment, au début de l'été, que vous avez menée, qui expliquerait qu'adopter un animal, et notamment un chien, ce serait bon pour le cœur.
Tout à fait.
Concrètement, comment ça marche?
Alors, c'est la campagne Oh My Dog, qu'on peut visionner sur YouTube, fait des cardio. Et en fait, c'est avoir un chien permet de socialiser, de rompre l'isolement social, dont on sait que c'est un facteur de risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Et ça permet aussi aux gens de bouger. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans le canapé à écouter Europe 1 ou à regarder la télé, ils sortent. Ou bien ils ont les écouteurs Europe 1.
On peut écouter Europe 1 avec les écouteurs sur Internet, bien sûr.
Non, mais c'est vrai qu'avoir un chien, ça fait baisser la pression artérielle, mais un chat aussi. Hein. Caresser son chien ou caresser son chat, la calinothérapie, c'est bon pour les artères, c'est bon pour la pression artérielle.
C'est juste les câlins. Voilà. C'est juste les câlins, ça fait du bien au cœur. La
calinothérapie fait baisser la pression artérielle.
C'est dingue ça. Donc
c'est
il suffit de se faire des. On peut avoir aussi un mari, on n'est pas obligé d'adopter un animal.
Oui, mais
on peut
par exemple, moi, cette période d'été, je vois beaucoup de gens isolés seuls et je me rends compte de l'attachement. Et vraiment, c'est là qu'on comprend que l'effet thérapeutique est majeur. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes seul et si jamais vous avez une maman ou un papa qui est un peu isolé, eh ben, s'ils ont un chien ou un chat, ça peut faire du mal à leur cœur.
Il faut prendre un chien adapté à l'état de. C'est pas offrir un labrador à quelqu'un qui tombe tout le temps.
On prend un petit chien qui va pas trop vite et qui n'est pas trop fort.
Oui, et on avait fait un partenariat avec la SPA pour cette campagne. Ce qu'on proposait aux gens d'adopter un chien pour justement. Et puis quand vous sortez, vous parlez avec les gens qui ont un autre chien.
Donc ça socialise.
On peut faire des rencontres amoureuses avec un chien aussi.
Alors justement, vous parlez des rencontres amoureuses, de la calinothérapie qui fait du bien au cœur. Du coup, je passe à ce sujet-là. Mais il y a un autre paramètre qui est important pour le cœur, c'est avoir plein de rapports sexuels. Alors ça, c'est prouvé. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, avoir des rapports sexuels, même âgés, ça protège des maladies cardiaques. C'est ça? Qu'est-ce qu'on voit dans ces études-là?
Alors effectivement, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps où le fait d'avoir deux rapports sexuels par semaine diminuait le risque d'infarctus du myocarde. Donc là, c'est casser les préjugés. Donc quand on a un patient qui vient pour un infarctus du myocarde ou une dissection aortique ou un gros pépin, là il se met à avoir une épouse qui le surcouve comme une maman et finalement ça entraîne des problèmes de couple. La phase aiguë, bien évidemment, comme toute activité physique, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité sexuelle, c'est une activité physique de 2-3 étages avec de l'émotion.
Ah, je croyais qu'il y avait une histoire d'hormones, moi, que pendant qu'on des rapports sexuels, on sécrétait
l'émotion,
certaines...
c'est vous libérer au moment de l'orgasme, on libère des phéromones,
hormones
de bien-être qui sont très bonnes pour le cœur, mais comme un footing. Hein.
D'accord.
Parce que c'est une activité physique comme une autre. Et finalement, l'élévation de la pression artérielle est très faible, l'élévation de la fréquence cardiaque aussi. Finalement, quand la situation cardiaque est bien maîtrisée, on peut même prendre également les médicaments d'aide pour les messieurs, qu'on appelle le Viagra, le Levitra, le Cialis. Ce n'est pas contre-indiqué, sauf qu'il ne faut pas donner d'autres médicaments comme les dérivénitrés.
Mais voilà, c'est quoi les dérivénitrés? C'est des médicaments
d'insuffisance cardiaque.
Les dérivénitrés,
c'est la trinitrine, quand on a mal dans la poitrine. Il y a des gens qui ont une petite bouffée qu'on met sous la langue. Mmh. Ou il y a d'autres médicaments qu'on donne pour le spasme coronaire. Bon, là, on informe bien les patients. C'est une éducation thérapeutique. Et surtout, après l'accident, les gens vont en rééducation. On l'espère. Bon, on et en rééducation, on l'aborde, en fait, ça.
On a montré que combien de si on peut donner une moyenne, hein, de câlins par semaine, qu'est-ce qu'on voit dans les études? Il faut faire souvent à quel rythme, en fait?
Non, il n'y a pas de rythme prédéfini. Là, l'étude la plus récente, c'était 2 câlins par semaine. Après, vous faites comme vous voulez.
Au moins 2 câlins par semaine, c'est bien. Non,
mais... Mélanie voulait savoir si elle était en bonne santé, en fait. C'est pour ça qu'elle pose la question. Non,
vous marchez tous les jours, Mélanie.
Ça suffit, alors.
Vous montez les escaliers tous les jours. C'est pareil, l'activité sexuelle, c'est 3 étages. Voilà.
Alors, en septembre, je crois que la Fédération française de cardiologie va lancer une autre campagne avec quelques conseils simples pour ne pas passer justement à côté d'un problème cardiovasculaire. Alors, je crois que dedans, il y a se faire dépister une fois par an l'hypertension. Enfin, donnez-nous 2-3 conseils justement ce qu'il faut faire pour ne pas passer à côté d'un pépin, justement.
Alors, cette campagne s'appelle la campagne Les gestes qui sauvent. Donc, ce n'est pas uniquement le massage cardiaque face à un arrêt cardiaque. Bien sûr qu'il y a ça sera donc un petit peu partout en France des journées de dépistage. C'est-à-dire, mesurer sa pression artérielle, ce qu'on appelle l'autodépistage de l'hypertension artérielle avec des appareils automatisés. On fait cela avec la Fondation également d'hypertension. C'est se faire dépister la glycémie, le diabète, le mauvais cholestérol. Et puis après, c'est se peser. Et puis
on le périmètre abdominal, non? Je crois qu'il y a dans le tour du ventre.
Effectivement,
quoi.
C'est le mètre ruban de la couturière entre la dernière côte et l'os du bassin. Et puis, c'est 88 cm chez les femmes, 102 chez les hommes. Et c'est également, on informe les gens sur la technique de relaxation du stress également. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Claire Meunier-Veillé. Alors, grâce à vous, on a toutes les bonnes armes pour protéger notre cœur, pour qu'il reste bien vigoureux jusqu'à 90 ans au moins. On va suivre tous vos conseils, faire souvent l'amour, la prise de tension au moins une fois par an, mesurer son périmètre abdominal. Merci d'être venu sur notre plateau. Dans un instant, on s'intéressera aux bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler des poux. Si votre enfant vient de rentrer de colo, la tête envahie de ces petites bestioles, surtout, restez avec nous. On vous dira ce qu'il faut faire pour vous en débarrasser. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
De retour dans votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps de passer maintenant à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on va parler des poux. Et justement, Caroline Baudry a été vous donner la parole à vous qui les détestez peut-être autant que moi. Que faites-vous pour les exterminer? On écoute.
Les enfants, je les évite, quoi. Surtout quand je commence à voir qu'ils se grattent.
Une fois, c'était à cause de l'escrime au collège. On enfilait directement les casques comme ça, sans se soucier qu'un jour, il y aurait une épidémie de poux.
Il faut se couper les cheveux, laver toute la maison, changer toutes les brosses, les têtes d'oreiller et tout, et se mettre des traitements horribles sur la tête.
Quand tu sors de la douche, maman, elle te passe une casserole de vinaigre sur la tête.
Elle me mettait un petit répulsif, du coup, sur mon petit chouchou avant d'aller à l'école pour éviter d'en attraper. Merci, maman.
C'est vrai qu'il faut le dire parce que faut pouvoir traiter l'ensemble, mais après c'est un peu gênant quand c'est soi-même.
J'ai essayé la lavande dans les savons, et puis là, dès que je vois une pub de poux à la télé, ça me démange, c'est un mauvais moment, hein. Je souhaite à personne d'en avoir.
Alors docteur Jimmy Mohamed, on est d'accord, les poux malheureusement, là on parle en période de rentrée, avant la rentrée scolaire, les fins des colos, mais en fait les poux c'est toute l'année malheureusement. Hein.
Bah oui, c'est surtout les moments où on est en collectivité, notamment chez les enfants, et c'est la maladie contagieuse la plus fréquente chez les enfants après les infections respiratoires.
Ah oui, alors est-ce qu'il y a un âge justement? Parce que bon, en général on imagine que c'est plutôt les enfants d'âge élémentaire, les maternelles éventuellement. On est d'accord quand même, au collège, au lycée, on en entend moins parler.
On l'entend moins, mais on peut quand même en entendre parler, parce que c'est vrai que ça touche les enfants en âge préscolaire, crèche et maternelle, mais il suffit qu'un petit soit infesté pour qu'il contamine son frère ou sa sœur, qui va contaminer ses copains au collège ou au lycée. Donc ça peut toucher tout le monde et même les parents. Donc finalement, même au travail, on peut en avoir.
C'est mon cauchemar, ça. Effectivement.
Moi, ça me gratte la tête là.
Ouais, mais vous, avec vos cheveux, vous risquez pas grand-chose. Vous avez vu ma tignasse.
Pas grand-chose, oui, mais quand même, les poux peuvent survivre quand même sur des cheveux courts.
Ah oui, donc vous en avez déjà eu peut-être?
Non, mais on les repère plus facilement, c'est la différence.
Bon, les poux, mettons, je dis ça, je dis rien, hein. Mon fils rentre de colo, j'imagine, hein. La tête pleine de poux, là, on est le 26 août, je fais quoi? Je le rase direct?
Non, surtout pas, honnêtement, c'est une très mauvaise idée. Déjà, ça fait culpabiliser l'enfant.
Ça lui fait plaisir.
Alors, honnêtement, raser la tête de son enfant peut être traumatisant pour lui, parce que finalement, on lui dit que c'est sa faute. Et donc, il faut le rassurer, lui dire que ce n'est pas sale, ce n'est pas un problème d'hygiène. Raser la tête va juste diminuer sa confiance en soi. Et certes, ce sera plus facile, mais vous risquez de le traumatiser. Donc, il y a bien d'autres techniques, on va en parler juste après.
Alors justement, on va passer au concret, puisqu'on a dit qu'on allait donner aux auditeurs toutes les armes pour combattre ces bestioles. Alors, on doit tout laver, hein, parce que moi, je me rappelle quand il y a eu des poux à la maison, c'est la grande laverie géante. On a des tonnes de linge partout, on enlève quoi? Les têtes d'oreiller, les bon, les bonnets, là, en ce moment, il n'y en a pas besoin, mais tous les manteaux, les vestes, on doit tout laver vraiment, Jimmy, à combien?
Il faut tout laver. L'idéal, c'est 60 degrés minimum pour les vêtements. Le doudou, il faut qu'il passe au sèche-linge durant 20 minutes ou mettre dans un sac à l'écart durant 2 jours les objets qu'on n'a pas pu traiter de façon différente.
Ça, on est obligé, ils résistent. Sinon, ils peuvent survivre sur le tissu, ils peuvent
survivre. Alors, au bout de 2 jours, ils meurent. Mais sinon, s'il reste quelques lentes qui vont donner des petits poux et qui derrière c'est reparti pour un tour. Et donc là, on rebelote, on recommence tout à zéro.
Alors, il y en a qui ont des recettes maison. J'ai des copines déjà qui m'ont raconté on fait un gros masque à la mayonnaise, on met un masque d'huile d'olive pour les étouffer, quoi, en quelque sorte. Est-ce que ça marche ça?
Alors, j'ai l'impression écoutez, que c'est la mayonnaise, c'est dans les frites et l'huile d'olive, c'est dans la salade. Oubliez ça. On est en 2019. On a bien d'autres techniques. Bien moins compliqué. Je vous invite à mettre de la mayonnaise sur votre tête et ensuite à vous laver les cheveux. Vous allez voir, c'est vraiment un enfer.
Donc on oublie la mayo. Par contre, chez les femmes, moi j'ai un truc qui marche assez bien. Il paraît que faire une coloration, donc se teindre les cheveux, en fait, hein, ça marche assez bien. J'ai plusieurs copines qui l'ont testé, effectivement, sur des adultes, sur des femmes adultes. On ne va pas teindre les enfants non plus. On ne les rase pas, on ne les teint pas. Mais sur les adultes, faire une coloration pour les femmes, ça peut marcher, il n'y en a plus. Alors bien sûr, évidemment, Jimmy, il y a par contre tous ces produits là qu'on trouve en pharmacie. Par contre, il y en a des tonnes. Alors moi, c'est vrai, quand je vais pour en acheter, on ne sait jamais. Il y a les asphyxiants, les huiles essentielles. On choisit quoi, en fait, comme produit là?
Alors les huiles essentielles ne marchent pas trop. Alors vous aurez toujours Madame Michu qui vous dira que les huiles essentielles sont formidables, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. On a aussi la famille des insecticides qui sont un peu plus toxiques et les asphyxiants, donc ceux qui vont étouffer les poux, sont ceux les plus efficaces. Et c'est tout simple, demandez conseil à votre pharmacien. C'est souvent le bien plus concerné, le plus expérimenté pour vous donner les meilleurs conseils.
Et surtout, on ne fait pas l'erreur de ne pas refaire. C'est-à-dire 5 à 7 jours après, quand on a fait un premier traitement, il faut recommencer, c'est obligatoire. Il ne faut pas l'oublier, c'est écrit sur les boîtes d'ailleurs. Mais souvent, on se dit, bon, ça va, je l'ai fait une fois. Non, il faut le refaire une semaine après.
Exactement, c'est pour se débarrasser des derniers œufs qui n'auront pas pu éclore, pour se débarrasser du cycle. C'est la même chose lorsqu'on a des enfants qui, vous savez, les vers dans les fesses, l'oxyurose. Et ben, il faut refaire le traitement 15 jours, 3 semaines après. Et ben pour les poux, c'est la même chose. 5 à 7 jours après, on retraite pour éviter la récidive.
Sinon, il y a aussi les bars à poux, je crois, des centres spécialisés qui ont ouvert un peu partout en France. Alors bon, on a l'impression que c'est un petit peu du marketing comme ça, mais moi, j'avais été faire un reportage dans ces bars. Effectivement, ça a l'air assez efficace. Là, par contre, on dépose son enfant une heure. Bon, certes, ça a un coût, mais aujourd'hui, il y en a un peu partout en France.
C'est extraordinaire. Il y en a dans les grandes villes. C'est une sorte d'aspirateur.
On dirait que vous avez testé, non?
Non, mais je trouve ça formidable parce que on a plein de recettes compliquées, mais là, on met son enfant, on le laisse pendant une heure et demie. Ça coûte entre 80 et 120 euros, et puis on aspire tous les poux, et puis c'est fini. On en parle plus. Donc ça peut être la solution alternative lorsqu'on a déjà tout essayé.
Merci beaucoup Jimmy. Alors de toute façon, je crois qu'il y a tellement de trucs à dire sur les poux qu'on fera bientôt une émission spéciale guerre contre les poux. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission avec notre sexologue Catherine Blanc. On va parler aujourd'hui d'infidélité. Pourquoi en vient-on parfois à tromper son conjoint? Elle nous dira tout juste après le titre Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
La Mélanie santé Gomez. Et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, pardon.
Oui, bonjour Mélanie.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on va parler sexualité, avec des sujets qui nous concernent tous, hein, même si on n'ose pas toujours les aborder. Et justement aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on a un sujet presque complètement tabou, hein, mais dans ce rendez-vous, on a décidé qu'on n'en aurait aucun. Donc aujourd'hui, on va parler d'infidélité, parce qu'on a eu une question d'une auditrice, Sophie, je vous la lis tout de suite. Bonjour Catherine, mon mari et moi sommes mariés depuis 22 ans. Je croyais qu'on faisait partie de ces couples qui durent, on avait une sexualité épanouie, je croyais. Je viens de découvrir qu'il a eu une aventure, je suis perdue car je l'aime toujours. Est-ce que cela signifie vraiment qu'il ne m'aime plus? Bon, Catherine, je crois que concrètement, c'est un cas particulier, mais est-ce qu'on peut quand même répondre à Sophie? Est-ce que tromper, ça veut dire forcément que son mari ne l'aime plus, quoi, en fait?
Non, bien sûr que non. Évidemment, toute la difficulté, c'est que un couple, on a souvent le sentiment que l'autre est à nous, l'autre nous appartient, l'autre ne voit que dans notre direction, et que dès lors qu'il regarde ailleurs, il ne nous regarde plus, il ne nous aime plus. Et du coup, on prend conscience qu'on est deux personnes, et il y a une idée de fracture, une idée de blessure personnelle. Et d'ailleurs, on dit « l'autre me trompe ». alors qu'en réalité, l'autre vit quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de cautionner. Non, pas du tout. Simplement, il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe pour l'individu qui va vivre cette infidélité, cette aventure, c'est l'accueil d'une émotion ou d'une curiosité ou de vouloir goûter à quelque chose qui, comme un beau gâteau qui passe sous le nez. Ce n'est ni à flatter ou ni à juger, mais en tout cas, ça raconte cette personne-là. Bien sûr, il y a dans quelques cas une envie de réparer, de punir, quand il y a des tensions de couple, mais quand il n'y en a pas, ce sont des choses encore différentes qui parlent de l'individu lui-même et pas du couple.
Docteur Jimmy Mohamed.
Alors, ce n'est pas une consultation personnelle, mais lorsqu'on...
Non, bien sûr, on a dit qu'ici, c'est jamais des consultations.
Non, jamais.
Voilà. Non, mais je salue ma femme qui écoute, donc voilà, tout va bien. Mais si on trompe son conjoint ou sa conjointe, est-ce qu'il faut le dire ? Ou il faut garder ça secret ?
Alors, c'est compliqué parce qu'on se dit toujours... en fait, ça renvoie à des histoires entre une maman et un enfant. Une maman, elle dit, si tu m'aimes, tu dois tout dire à maman. La réalité, c'est qu'un couple, ce n'est pas une maman et un enfant. Et que nous faisons des pas, des pas justes et des faux pas, ou des pas qui sont très importants pour nous, mais on doit prendre soin de l'autre. Et tout d'un coup, arriver en disant, tiens chérie, je t'ai trompé, ou tiens, j'ai l'intention de te tromper,
On prévient rarement quand même avant, non, je crois. Enfin, c'est pas du tout une expérience personnelle non plus, mais
non, mais parce que
il y a pas de gens qui disent je vais te tromper, non.
Je fais référence à un monsieur qui me disait que si sa femme devait le tromper, elle devait l'en prévenir parce que c'était de la lâcheté de le faire après coup pour se faire pardonner. D'accord. Donc c'est pour vous dire que chacun voit les choses, enfin midi à sa porte. C'est-à-dire que effectivement, dire à l'autre je t'ai trompé, ça arrive. Comme un cheveu sur la soupe bien souvent, c'est une brusquerie, ça raconte souvent plus sa propre culpabilité, une demande de pardon, c'est souvent plus douloureux qu'autre chose.
Mais si on est infidèle, est-ce que ça... Alors, on a compris que l'amour, c'est pas toujours... On peut quand même aimer son épouse et le tromper, parce qu'il y a ce beau gâteau qui passe devant nous, un accident peut-être. Mais si on est infidèle, ça veut dire quand même que sexuellement, à la maison, entre guillemets, il y a forcément un problème ou pas ?
Pas toujours. Non, ça peut être le cas en effet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se vivent pas ou pas assez, ou qui nous manquent de lumière, d'épanouissement. Mais parfois, c'est simplement parce que c'est une histoire de liberté personnelle, c'est une histoire de conquête personnelle, de ses capacités, d'aller explorer des choses de soi que l'on n'a pas nécessairement envie d'explorer avec son ou sa partenaire.
Jimmy ?
On parle souvent de l'homme infidèle, mais les femmes aussi peuvent tromper leur conjoint. Est-ce que on en a autant ? Est-ce que les femmes trompent autant les hommes ?
Alors d'abord, si les hommes étaient infidèles, il faudrait essayer de savoir avec qui, si ce n'était avec des femmes. Alors bien sûr, il y a un peu plus de femmes sur la planète qu'il n'y a d'hommes, mais fondamentalement, ce sont des femmes mariées, ou en couple elles-mêmes, donc des femmes elles-mêmes infidèles. Ceci étant, elles sont moins libres d'en parler, puisqu'il y a toujours cette idée que la femme qui fait l'amour en dehors du couple et en dehors de sa fonction maternelle, c'est une prostituée ou une femme de petite vertu. Donc, alors que chez les hommes, il y a une sorte de fierté à être capable de satisfaire plusieurs femmes. D'où le fait qu'elles n'en parlent pas de la même façon qu'en parleraient les hommes.
Alors, vous avez dit que l'infidélité, ça pouvait être parfois donc, un petit gâteau qui passe et qui est très, 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 très tentant, on y va. Mais parfois, il y a des gens chez qui c'est carrément un mode de vie. Je vais prendre un exemple d'un homme infidèle. Non, pas du tout. Mais un homme infidèle, de manière chronique, on va dire. Là, est-ce qu'il y a une addiction, un problème ? Ça ramène à quoi, en fait, finalement ? Pourquoi ce comportement un peu compulsif de tromper tout le temps, quoi ?
Alors, je crois que c'est... Alors, soit ça peut être parce qu'il y a une peur d'être enfermé dans la relation. C'est une façon d'échapper. En fait, c'est moins une gourmandise extérieure qu'un besoin de se prouver qu'on s'appartient. Et donc, le besoin de vérifier que je ne suis pas la chose de l'autre, donc de cette femme, puisqu'on a pris l'exemple d'un homme. Mais ce peut être aussi la difficulté d'accepter de passer à côté de quelqu'un sans sexualiser la relation, comme si toute relation devait passer par la sexualité et que c'était impossible de faire avec la frustration que l'autre ne goûte pas à sa propre intimité.
C'est une addiction ou pas ?
Et dans ce cas, ce peut être une addiction. Donc ce n'est pas la preuve d'une sexualité tranquille, large et épanouie, mais plutôt d'une anxiété.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain, c'est la fin de cette émission. Demain on parlera notamment de confiance en soi, d'estime de soi, de psychologie positive avec notre invitée Florence Servan-Schreiber. On va apprendre à dépister vos super pouvoirs et oui, on en a tous. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, quelle joie de vous retrouver en duo avec le docteur Jimmy Mohamed. Je vous ai écouté tout l'été, vous savez.
J'espère bien.
Vous formez vraiment, en tout cas, un sacré duo. Ça a l'air de bien se passer entre vous. Hein.
Il me fait des appels du pied pour aller dans des clubs échangistes.
Ah oui, un peu trop bien même, donc visiblement. Mélanie, reste avec nous, car dans un instant, on se retrouve pour l'équipée sauvage. Deux heures pour rire et découvrir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui croiseront le fer pour le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Qui nous donnera l'info la plus étonnante? Celle que vous aurez hâte de raconter à table ce soir. C'est vous qui tranchez. Et aussi notre invité aujourd'hui, le truculent, le virevoltant, Harry Habitant.
Bon allez Mathieu, bonne émission. À demain, restez sur Europe 1.